Jacques, bonsoir. Au Burkina Faso, les manifestations contre la révision de l'article 37 de la Constitution, limitant le nombre de mandats présidentiels, ont précipité la démission du président Blaise Compaoré jeudi dernier. Cette situation pourrait-elle avoir un impact sur d'autres pays d'Afrique? C'est le thème du dialogue entre Congolais de ce lundi 3 novembre 2014. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat André Alain Atundu. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes cadre de la majorité présidentielle et président du parti politique Convention pour la démocratie et la République. Jolino Makelele, député provincial de l'opposition et porte-parole de l'UNC. Monsieur Jolino, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique. Il est aussi coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur Bob Kabamba, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Après 27 années de pouvoir, le président burkinabé Blaise Compaoré s'en va sous la pression de la rue. Sa tentative de révision de l'article 37 de la Constitution lui permettant de briguer un cinquième mandat a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase du mécontentement populaire. Les détails avec vous, Berry Franklin Louchaka.
Blaise Compaoré est arrivé au pouvoir en 1987 suite à l'assassinat de l'ancien chef de l'État Thomas Sankara. La constitution du pays a été adoptée en 1991 et promulguée une année plus tard. Cette constitution a connu en tout et pour tout 6 modifications, dont celle de janvier 1997 pour lever le verrou de la limitation du mandat présidentiel, celle d'avril 2000 pour ramener la durée du mandat présidentiel de 7 à 5 ans et celle de janvier 2002 pour réintroduire sa limitation à renouvelable une fois. De toutes ces modifications, on retiendra l'article 37 qui stipule, je cite, « Le président du Faso est élu pour 5 ans au suffrage universel direct, égal et secret. Il est rééligible une fois. » Fin de citation. C'est justement cet article qui est la clé du soulèvement de la population. Les événements sont partis très vite. Il y a 2 semaines, le président avait introduit une proposition de modification de l'article 37 au Parlement afin de se présenter en 2015. L'opposition burkinabé s'est montrée catégorique face au respect de cet article de la Constitution. Elle s'appuie pour ce faire sur la population pour barrer la route à cette tentative. 2 grandes marches ont été organisées, dont la plus importante reste celle du mercredi 29 octobre dernier, lorsque les parlementaires devraient statuer sur le plan de Compaoré. Conséquence, le siège du Parlement assiégé et incendié par la population en colère, s'ensuit les communiqués annonçant l'état de siège, la dissolution du Parlement et le lendemain dans la journée, la démission du président Blaise Compaoré. Entre-temps, en Afrique, plusieurs pays sont concernés par des possibles tentatives de modification de la Constitution pour rallonger le mandat présidentiel. C'est le cas du Burundi, du Congo-Brazzaville, du Rwanda et de la RDC.
Merci Berry Franklin Louchaka. En RDC, le président de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC en sigle, Vital Kamerhe, estime que le continent doit tirer des leçons de ce qui se passe au Burkina Faso. Lors d'une conférence de presse vendredi dernier, Vital Kamerhe a félicité le peuple, les leaders politiques et ceux de la société civile du Burkina pour le changement survenu dans leur pays. Le leader de l'UNC a appelé les dirigeants congolais à tirer des bonnes leçons de cette situation. On l'écoute au micro de Radio Kapi.
Nous devons d'abord féliciter le peuple burkinabé, les leaders politiques et de la société civile. Ceci démontre que nos peuples ont compris que c'est eux qui donnent le pouvoir et que c'est eux qui peuvent le retirer et que leur destin c'est entre leurs mains. Et la deuxième leçon qu'il faut tirer de cela, c'est que les différents chefs d'État doivent comprendre que plus rien ne sera comme avant. Et ceci doit être une leçon qui doit être retenue pour chez nous aussi, où nous avons choisi la lutte pacifique. politique. Nous ne sommes pas des M23 ni des groupes de rébellion. Ce que nous demandons à la majorité présidentielle, c'est que nous nous rencontrions et que nous parlions autour de M. Martin Kobler, parce que ce n'est pas nous qui avons signé l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098. C'est le président de la République, c'est le gouvernement de la République démocratique du Congo. Tirons les leçons des mauvaises élections de 2011 pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Et nous avons compris que nos amis risquent d'abandonner le projet de la révision de la Constitution. C'est la stratégie maintenant chez beaucoup de chefs d'État africains vont comprendre que ce n'est plus possible. Mais il y a une autre stratégie. Ils vont tirer les choses en longueur pour les glissements, c'est-à-dire la prolongation.
André Alain Tundou, je rappelle que vous êtes cadre de la majorité présidentielle et président du parti Convention pour la démocratie et la République. D'abord, quelle lecture faites-vous de cette situation du Burkina Faso?
Merci, madame. Ce qui s'est passé au Burkina Faso n'est pas un motif de fierté ni une journée de gloire pour la démocratie africaine et pour les démocrates du monde entier. Pourquoi ? Parce que le processus démocratique a été arrêté et le pouvoir, le peuple, a dû par la force de choses reprendre d'autorité le pouvoir qu'il avait donné à la classe politique. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas dire autant de la classe politique. Elle n'a pas pris ses responsabilités. Elle n'a pas prévu un mécanisme de prise de pouvoir et d'exercice du pouvoir pour étendre de façon efficace l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Et voilà pourquoi il y a ce flottement de la démocratie, ce balbutiement de la classe politique et finalement l'intervention de l'armée.
Alors, ce que vous dites que ce n'est pas un motif de fierté pour la démocratie africaine, vous condamnez un peu la population d'avoir arraché le pouvoir qu'elle a donné démocratiquement au président Blaise Compaoré. Est-ce que ça veut dire que la réaction de la population n'était pas justifiée?
Je ne condamne pas la population. Je dis que la population a donné le pouvoir à la classe politique. C'est le pouvoir démocratique au sein du Parlement. Et malheureusement, la classe politique n'a pas été à la hauteur pour résoudre tous les problèmes avec les moyens que le peuple leur a donnés. D'où le peuple est revenu par la force des choses, prendre d'autorité son pouvoir, et maintenant, d'ailleurs, il a réuni la classe politique, et la classe politique bafouille. Elle est incapable aujourd'hui d'avoir un cadre institutionnel capable d'assurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire et sur toutes les institutions.
Ça veut dire qu'elle n'a pas su jouer son rôle.
Elle n'a pas su jouer son rôle. Et d'ailleurs, il suffit de suivre les déclarations, j'allais dire presque timides, des autorités civiles. Êtes-vous prêts à prendre le pouvoir? Non, nous sommes nombreux. Êtes-vous prêts à être au service du peuple? Oui, mais nous sommes nombreux.
Là, vous faites allusion à l'opposition?
Non, je fais allusion à la classe politique. En l'ensemble de la classe politique. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont la charge d'exercer le pouvoir du peuple, le pouvoir populaire du peuple, mais c'est la classe politique. On a dit, la classe politique doit se réunir, l'opposition, la majorité, la société civile et aujourd'hui l'armée, pour qu'ils puissent trouver un modus vivendi.
Alors, on sait que tout est parti de ce projet de loi de pouvoir réviser l'article 37 de la Constitution limitant les nombres de mandats présidentiels. C'est ça qui est à la base de ce départ précipité de Blaise Compaoré. Comment vous analysez l'attitude même du président Compaoré en voulant modifier, réviser la Constitution?
Bon, là, je voudrais surtout dire, parce que ça se retrouve même chez nous, l'article 37 de la Constitution burkinabé est inapplicable en l'état. Pourquoi ? Parce que l'article 49 de la même Constitution dit ceci. Le président du Faso peut, après avis du Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale, soumettre au référendum tout projet de loi portant sur toute question d'intérêt national. En cas d'adoption de la dite loi, il procède à la promulgation dans les délais prévus à l'article 48. Alors, puisqu'il n'y a aucune limitation de matière, de temps, n'est-ce pas? Eh bien, c'est comme s'il y avait deux lois concurrentes. Et aujourd'hui, on ne peut pas savoir laquelle est prépondérante par rapport à l'autre. C'est un peu comme chez nous. L'article 218 qui dispose d'un certain nombre de choses, mais l'article 220 n'accorde qu'une limitation aux initiateurs de la Constitution. Ça, c'est un problème sérieux qui dépasse les intérêts conjoncturels, parce qu'il va du bon fonctionnement de notre démocratie. Bon, ceci dit, le président Burkinabé, le président Compaoré, a été victime d'une conjonction de facteurs inflammatoires. D'abord, la haine tenace des Sankaristes, qui ne lui ont jamais pardonné d'avoir été, entre guillemets, à la base de l'assassinat de leur leader. C'est la rancœur. Cette haine est tenace. Deuxièmement, c'est la rancœur des Gbagboïstes. Vous savez, la plupart des Ivoiriens qui sont réfugiés au Burkina Faso, ce sont des partisans de Gbagbo. Ils ne pardonnent pas à Compaoré d'avoir été l'élément moteur de chasser Gbagbo du pouvoir. C'est un autre élément. Alors, le troisième élément, ce sont des frustrations diverses. Des frustrations de laisser pour compte, des frustrations des adeptes de droits de l'homme, avec des assassinats, Zongo, etc. Alors, la maturation de ces facteurs, eh bien, ont été inflammatoires, et malheureusement, pour le président Blaise Compaoré, il n'a pas su manœuvrer adéquatement ou adroitement pour essayer de résoudre de façon démocratique cette situation. Il a accepté, mais c'était trop tard, la pression était trop forte, et voilà pourquoi j'ai dit que c'était une journée quand même malheureuse, parce que le chef de l'État n'a pas pu saisir la volonté du peuple à temps.
Merci André Alain Atundu. Jolino Makilili, je rappelle que vous êtes député provincial de l'opposition et porte-parole de l'UNC. Quelle est votre lecture à vous par rapport à cette situation du Burkina Faso?
Je dirais que ce que le peuple a donné, il l'a repris. Et la volonté du peuple, c'est la volonté de Dieu. Je suis pour le moins abasourdi d'entendre l'ambassadeur Atundu dire ici que, d'une part, que ce n'est pas un motif de fierté pour ni des motifs de gloire pour tous les peuples du monde que cet événement. En même temps, qu'il dit qu'il a constaté une absence de l'autorité de l'État, et puis par ailleurs qu'il compare la situation des Burkinabés à une situation où il y avait de l'ambiguïté au terme des lois qui président aux destinées de ce pays. Je suis malheureux d'entendre ça. Pourquoi? Parce que, en réalité, quel est le nœud du problème? Le nœud du problème, c'est que M. Blaise Compaoré, 27 ans au pouvoir, c'est-à-dire à 5 longueurs seulement du Mobutu, c'est-à-dire à 10 longueurs seulement de M. Kabila, qui en a déjà fait 15, voulait se représenter une nouvelle fois. Et ce, en violation des dispositions constitutionnelles de son pays. Les dispositions, l'ambassadeur Atundu a évoqué aussi bien l'article 37 que l'article 49. L'article 49 qui dit « le président peut soumettre tout projet à référendum, etc. » Mais la matière de la Constitution, c'est une matière spécifique. Ce n'est pas de cette matière-là qu'il s'agit à l'article 49, puisque l'article 37 parle expressis verbis de la Constitution, de la modification de la Constitution. Donc c'est cet article-là qui est pertinent. Et on doit noter, et donc il n'y a pas de doute là-dessus pour savoir lequel de ces articles est prépondérant. Non, parce qu'il s'agit d'une matière touchante à la Constitution. Les députés ont été saisis d'un projet portant modification de cet article qui aurait pu donner un nouveau mandat au président Blaise Compaoré, ce que le peuple ne veut pas entendre. Il faut quand même qu'on le souligne. C'est-à-dire le peuple s'est dit, moi, peuple, à travers mes représentants ou à travers un référendum, j'ai accepté un document qui est presque une Bible pour nous, la Constitution. J'ai donné les mandats à chacun des animateurs de cette Constitution et à des institutions. Il faut que les gens s'en tiennent à cela. Or, chacun sait que le président Compaoré tenait à faire un nouveau mandat. Et donc, nous nous disons que...
Vous estimez que c'est un motif de fierté?
Je dis tout simplement que c'est la conséquence d'un entêtement et d'une volonté de violer les dispositions constitutionnelles de son pays. Suivez mon regard, j'y reviendrai peut-être. Mais pour le reste, quand on dit on veut expliquer cela par des phénomènes sociaux, on nous dit le président a été victime et notamment de la haine des sankaristes. Écoutez, si comparaison n'est pas raison, nous y reviendrons peut-être, mais je parlerai de la haine éventuelle de certains à l'égard de Mobutiste. Aujourd'hui au Congo, on va y revenir sûrement, la comparaison ne va pas s'arrêter à l'intérieur du Burkina, nous reviendrons sûrement au Congo. Mais ça c'est un argument qui me semble manquer de pertinence, parce que ça c'est un argument, ça c'est le constat qu'on peut faire, et j'allais dire de manière ultime. Mais ce n'est pas ça la cause ou la raison de l'échec de ce mouvement. Deuxièmement, on parle de la haine des gbagboïstes. Mais c'est un peu comme si on nous disait ici, les Congolais du Congo-Brazza ou les Angolais sont venus ici, et puis M. Kabila ou quoi, ça, il a fait une chose qui n'a pas marché, c'est à cause d'eux. Je ne dirais pas juste ce genre de choses. Enfin, on parle...
Il a parlé des frustrations.
Des frustrations. Alors là, je suis d'accord. Frustration, quand vous avez en 27 ans de pouvoir, vous n'avez pas réussi à donner l'essentiel de ce à quoi votre population a droit. Pas d'électricité, pas d'eau, une justice à double vitesse, quand vous n'avez pas d'augmentation de salaire, quand vous ne créez pas des emplois. La comparaison va se faire très rapidement avec le Congo, la RDC, j'imagine, on va y arriver. Mais que voulez-vous que les jeunes gens qui sortent de l'université au Burkina Faso, j'ai un ancien collègue qui est au Burkina qui m'a dit, le chômage chez nous, c'est une sorte de gangrène. Donc quand vous voyez tout cela, vous vous écartez de la logique développée par l'ambassadeur Atondou. Donc en réalité, M. Blaise Compaoré a voulu s'entêter, il a voulu faire un autre mandat, par la force, comme dirait le maréchal, gouverné par défi. Et donc ça ne marche pas et ça ne marchera pas en Afrique. Nous avons connu des débuts au Burundi, un peu timide, mais je veux vous dire que ça ne marchera jamais en Afrique. Tous ceux qui sont tentés, et surtout les stagiaires de la majorité présidentielle, ceux qui sont partis au Burkina Faso pour apprendre comment transformer les constitutions, tripatouiller les constitutions, j'espère qu'ils sont venus et qu'ils aient leur leçon.
Est-ce que vous avez des preuves que la majorité avait envoyé une délégation au Burkina pour voir comment cette passation ou cette prévision allait se faire? On a cité entre autres l'ambassadeur Atundu, il est avec nous dans ce studio.
Je ne citerai personne, mais j'allais parce que vous êtes journaliste, vous ne pouvez pas ne pas savoir qu'il y a eu des stagiaires qui sont partis là-bas pour apprendre comment tripatouiller les constitutions. Chez nous, ça ne marchera pas, madame. Pourquoi? On va y revenir peut-être.
Merci,
quand on va
monsieur
aborder.
Merci, Jolino Makelili, Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique. Vous êtes aussi coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Comment vous analysez ces événements du Burkina Faso qui ont précipité la démission du président?
Merci pour la question. Oui, il faut bien analyser les événements et essayer de pouvoir mieux s'informer par rapport à ce qui s'est passé au Burkina Faso. Le premier constat que l'on peut essayer de mettre en exergue est le fait qu'il y a, de manière très claire, une rupture entre la classe politique et le peuple burkinabé. Et par ailleurs, on remarque aussi ce qui découle de cette rupture. En fait, il y a une crise de confiance claire entre la classe politique et la population burkinabèse. Alors ici, de manière claire, quand on regarde un peu mieux, on analyse un peu mieux le mouvement tel qu'il se passe, on se rend bien compte que c'est un mouvement qui naît de la société civile. Et c'est la société civile qui le canalise. Et l'opposition n'a fait qu'a été à la traîne de l'évolution de choses. C'est le mouvement citoyen qui est à la base du pouvoir de ces différentes manifestations. C'est le mouvement citoyen qui a mis en exergue les différentes revendications, notamment non seulement non à la modification de la Constitution, mais aussi au-delà de cette modification, le départ de Blaise Compaoré. L'opposition a été à la traîne et a été chaque fois dépassée par les revendications et par les manifestations de l'opposition. Et la preuve que l'on a par rapport à cet état des faits, c'est que cette opposition ne parvient pas à se mettre d'accord par rapport à la suite à donner à ce mouvement qui a été initié par la société civile. Par ailleurs aussi, il faut aussi bien se rendre compte, quand on regarde les manifestants, on se rend compte qu'il s'agit essentiellement de beaucoup de jeunes intellectuels qui ont des diplômes et qui sont au chômage et qui revendiquent, en fait, d'avoir un travail, de pouvoir vivre mieux dans un pays où il y aurait une redistribution claire de richesses. Alors, quand on s'intéresse aux leaders de mouvements citoyens, on se rend bien compte, il s'agit notamment des certains intellectuels, mais aussi des stars de musique qui s'adressent à ces jeunes. Ce sont des musiciens qui sont engagés et qui ont un discours engagé et qui ont su canaliser les revendications et les aspirations de cette population des jeunes burkinabés pour pouvoir les amener sur un terrain politique et de pouvoir arriver à ce résultat qui est le départ de Blaise Compaoré. Et donc il faut vraiment bien mettre l'accent que c'est au départ de la crise entre le politique et la population, et ce vide a été occupé par des leaders jeunes, musiciens, intellectuels, des gens de théâtre, etc., de la culture au niveau de Ouagadougou, et qui ont permis de pouvoir cette émergence et de pouvoir même les canaliser. Et lorsque vous regardez les revendications de l'opposition et vous lisez les revendications de la population, vous allez voir qu'il y a un décalage clair entre, d'une part, ce que la population veut et ce que l'opposition est en train de vouloir. Et donc là, et même dans les revendications, cette opposition ne fait qu'aller à la traîne, en fait, des revendications de la population.
Alors, professeur, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne, madame.
Alors, est-ce que vous avez parlé des crises de confiance entre les peuples et la classe politique? Donc, ça n'a rien à voir, comme l'a souligné tout à l'heure l'ambassadeur Atundu, de la haine sankariste ou bagboïste qui serait, entre autres, à la base de ce qu'on vit aujourd'hui au Burkina.
Je pense qu'il y avait déjà un malaise profond qui existait au sein de la société burkinabé, pour la simple raison que la plupart des jeunes qui revendiquent, ce sont des jeunes qui sont des diplômés. Et quand on va aux études à l'université, c'est pour pouvoir avoir son diplôme, mais aussi avoir un emploi. Et alors, lorsque vous avez votre diplôme et vous n'avez pas d'emploi, et vous avez de votre côté, au niveau de la classe politique, vous avez l'impression que cette classe politique n'arrive pas à répondre aux attentes de ces jeunes qui sont là, à l'attente d'un mieux-être, alors on canalise ces revendications, et ces revendications se focalisent sur, à juste titre, sur le pouvoir de Blaise Compaoré, et donc, de ce fait, on arrive à cette explosion, et même on ne peut pas aller au-delà. Lorsque vous suivez l'évolution des manifestations et des revendications, vous vous rendez compte de manière claire que c'est plutôt la population qui a fait partie Blaise Compaoré, et ce sont ces jeunes qui ont fait partie Blaise Compaoré, et non pas la classe politique de l'opposition burkinabé.
Alors, professeur Bob Kabamba, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Mwembo Jean-Jacques, cette situation peut avoir de l'incidence dans d'autres pays africains. Oui et non. Pourquoi? Car nous l'avons vécu dans le cas du printemps arabe. Premier point, cela dépend de la réforme qu'on peut initier dans les cas d'espèce, tout en permettant un dialogue social avec son peuple. Au point 2, ceci dépend aussi de la façon dont les médias occidentaux donnent l'information, selon qu'on vous aime ou on ne vous aime pas. Au troisième point, de la capacité de l'opposition à mobiliser la population. Ceci dit que l'environnement politique dépend d'un pays à un autre.
Professeur, cette situation pourrait-elle avoir un impact sur d'autres pays d'Afrique? C'est cet auditeur qui nous écrit de Kinshasa, donne deux réponses, oui et non, il a avancé ses raisons. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je dirais qu'un contexte politique n'est pas un autre. Lorsque l'on analyse sur le continent africain, vous avez une diversité clair au niveau des régimes politiques, au niveau des sociétés. Et lorsque l'on a regardé le point de vue sociologique, on se rend bien compte qu'un pays n'est pas l'autre. Parce que lorsque vous venez faire, par exemple, une comparaison en disant, ben, est-ce qu'on va arriver à avoir une classe politique au Congolais qui pourrait arriver à mobiliser, à pouvoir canaliser les revendications de différents jeunes Congolais, je n'y crois pas. Je n'y pense pas. Et que si je dois faire le parallèle, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait un mouvement social fort au niveau du Congo qui soit canalisé non pas par les hommes politiques, parce que tout simplement il y a une crédibilisation de l'homme politique congolais, malheureusement, qui est de manière générale constatée tous les jours quand vous lisez l'actualité et les différentes réactions des populations. On se rend bien compte qu'il y a une crise de confiance très très forte entre la population et la classe politique congolaise. Or, entre les deux, au niveau du Congo, on n'a pas une espèce de mouvement qui pourrait canaliser ces revendications de ces jeunes, de tous ces gens qui veulent se battre pour avoir un meilleur être et pour pouvoir arriver à porter un message clair et un message très fort. Et ça, c'est une première différence. Deuxième différence qui est fondamentale pour ma part, en fait, c'est lié même au système politique congolais qui est différent du système politique burkinabé. Je m'explique. Lorsque l'on parle de l'opposition au Burkina Faso, il s'agit pour l'essentiel quand même des gens qui ont été élus et qui ont une assise locale assez forte liée aux structures sociales du Burkina Faso. Mais lorsque l'on fait la comparaison maintenant avec le Congo, on se rend bien compte que l'opposition telle qu'elle est représentée aussi bien au Parlement qu'en dehors du Parlement n'a pas malheureusement la même assise et la même ancrage au sein des structures sociales du Congo.
Merci, donc, professeur. Je vous redonne la parole tout à l'heure. André Alatundu, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu.
Aimé Sirinda, j'appelle depuis la ville de Bukavu de la province du Sud Kivu. Les Burkinabés ne se sont pas libérés eux-mêmes. Ils viennent de libérer tout un peuple d'Afrique et cette libération est un message très fort aux dirigeants africains qui, une fois au pouvoir, ils relèguent le peuple au dernier rang. Je pense que les autres présidents, avant d'envisager une révision constitutionnelle, doivent d'abord aller demander les conseils à l'ex-président Compaoré aujourd'hui en exil. Que les dirigeants africains comprennent que le pouvoir vient du peuple et non le contraire, et que la fin du mandat est une étape de la vie.
Alors, réaction à Tundu, Alain-André à Tundu.
La réaction, c'est qu'il faut éviter, en tant que responsable, d'avoir une gestion émotionnelle de la démocratie. Ce sont des problèmes sérieux, des problèmes sociaux qui sont globaux et totaux.
Qu'on retrouve dans beaucoup de pays d'Afrique.
Qu'on retrouve dans tous les pays, mais seulement. Comme l'a dit Jean-Baptiste Placard, chaque peuple, il parlait du Burkina Faso, et moi je le paraphrase, chaque peuple a les moyens d'écrire son histoire et a l'obligation de maîtriser les paradoxes de sa démocratie pour être viable, pour faire un État viable. Ceci dit,
ça pourrait être un déclic, ce qui se passe au Burkina pour les autres pays d'Afrique.
Dites, ça pourrait être un déclic. Mais il y a des conditions, comme l'a dit le premier intervenant. Pour cela, il y a comme trois théorèmes. Le premier théorème, c'est le théorème de l'éviction. À quelles conditions un chef d'État, on va prendre le cas de Blaise Compaoré, a été amené à quitter le pouvoir? C'est lorsque la masse populaire de pression a atteint un niveau critique. Vous avez entendu parler de 1 million. Mais cette masse critique, ça dépend de chaque pays. Lorsque cette masse critique agit de façon rapide, surprenante, alors, en ce moment-là, le dirigeant perd le pédale et s'en va. Autre chose est maintenant, comment accéder au pouvoir laissé vacant? Il y a une certaine condition. Il faut pour cela que celui qui prétend au pouvoir puisse maîtriser les instruments institutionnels pour imposer l'autorité de l'État sur l'ensemble de la nation, sur l'ensemble des institutions. Voilà pourquoi, comme le pouvoir, l'opposition, disons-le, n'a pas les moyens, l'armée est intervenue. C'est ça le troisième théorème, le théorème de la vacuité démocratique. Lorsqu'il n'y a pas moyen, eh bien, l'institution qui a les moyens les plus efficaces d'imposer l'autorité de l'État s'impose. Et en l'occurrence, c'est l'armée.
Alors, l'honorable Jolino Makelele a évoqué tout à l'heure le fait que la majorité présidentielle congolaise aurait envoyé une délégation au Burkina Faso pour voir comment la révision constitutionnelle s'est passée. On a cité entre autres votre nom et c'est vous qui serez à la tête de cette délégation. Vous étiez à Ouagadougou, oui ou non, André Alatundu?
Un grossier mensonge, malsain, malveillant et pervers. Quel est l'objectif de l'honorable en se disant? C'est de créer la zizanie au sein de la majorité d'abord, parce qu'il doit se dire, tiens, nous sommes allés, nous n'avons pas été consultés. Au sein de la classe politique, on dit, tiens, voilà les semeurs de désordre. Au sein de la classe politique africaine, en disant, mais qu'est-ce que les Congolais viennent faire ici?
Parce qu'ils ont aussi ces projets, cette ambition de pouvoir réviser la Constitution.
Non, c'est une... Enfin, ce sont des fantasmes. Dire cela, ce sont des fantasmes. Le secrétaire général de la majorité présidentielle n'a envoyé aucune délégation. Ceci dit par ailleurs, mais le Burkina Faso n'est pas derrière le rideau de fer. Et chaque fois que quelqu'un s'y rend, il doit montrer patte blanche en retour. Ça, ce sont des distractions. Jamais aucune délégation de la majorité présidentielle ne s'est rendue au Burkina Faso. Et M. Atundu, que je suis, n'a jamais été bloqué à Ouagadougou. Je suis là, je participe aux événements de ce pays.
Alors, est-ce que cette situation peut avoir un impact sur certains pays d'Afrique, entre autres la RDC? On a suivi le président de l'UNC, Vital Kamerhe, qui appelle les dirigeants congolais à tirer des bonnes leçons de cette situation, sachant qu'il y a une révision en cours.
J'espère qu'il est en train de nous suivre et qu'il le suit attentivement, ce que le professeur Kabamba a dit, l'absence de crédibilité de l'opposition. C'est ça qui ébranle notre démocratie.
On parle de la révision de la Constitution.
Non, c'est ça. Parce que la question de la révision de la Constitution, c'est d'abord une question soit de méconnaissance de la Constitution, soit de l'ignorance de la Constitution, soit de la mauvaise foi des acteurs. Il faut faire la part des choses entre ce que la raison et la Constitution permettent et c'est que la volonté populaire et éventuellement l'opportunité...
Mais est-ce que ça pourrait avoir un impact, André Alain Atundu?
Il peut y avoir une incidence, pourquoi pas, le phénomène de mimétisme. Et un intervenant a dit, le printemps arabe n'a pas parcouru tous les États arabes, il s'est arrêté quelque part, parce que comparaison n'est pas raison.
Merci André Alain Atundu, honorable Jolino, Makelele, je repose la même question, est-ce que cette situation pourrait avoir un impact en RDC?
Oui, j'aurais souhaité évidemment rencontrer les objectifs, les appréciations du professeur Bob Kabamba avant d'arriver à l'étape congolaise, si j'ose dire. Et je dois dire aussi, sauf si on n'a pas beaucoup de temps, mais je dois...
Oui, justement, on n'a pas beaucoup de temps, donc on va essayer de se résumer.
Disons que pour moi, les choses sont claires. Je dis à tous ceux qui prétendent qu'il faut que les événements de Ouagadougou sont des événements quasi parcellaires, c'est-à-dire qu'ils ne débordent pas de l'espace burkinabé, sont en train de se tromper. Puisque l'histoire, c'est un éternel recommencement. Nous avons vu ces choses-là. Au Congo, Mobutu, c'était un monument, madame. C'était un monument. Eh bien, ce sont les mêmes qui, aujourd'hui, conseillent souvent. Conseille à M. Kabila de persister et qui ont été à ses côtés pour dire, à côté de Mobutu, pour dire, président fondateur, la situation est calme, nous maîtrisons la situation, le peuple est derrière vous. Et tout se passe bien. Donc ce sont les mêmes. Et M. Kabila devait s'en méfier un peu. Et moi, je vais vous dire une chose.
Le peuple Burkina Faso, quand on lui dit Burkinabé, quand on lui dit ici, aujourd'hui, que la situation, on parle de donner d'une sorte d'examen sociologique de la situation, pour opposer la classe politique, la société civile à la classe politique. Mais c'est pas, ça c'est une gymnastique qui est intellectuellement abjecte. Pourquoi ? Parce que vous avez, qui siège au Parlement ? Ce sont les politiques. Qui défendent, l'option contraire du président ? Ce sont les politiques. Et c'est seulement quand ils élèvent la voix que la rue entend, que la rue comprend ses préoccupations, que la rue prend le relais. La rue ne vient pas d'elle-même comme ça, comment demander à Blaise Compaoré de partir. C'est parce que la rue a compris. La rue, c'est le peuple, madame. Et donc, ce que je vais vous dire ici par rapport au Congo, à la RDC.
Mais la rue peut aussi se soulever sans l'influence de la classe politique.
Mais la rue, madame, elle est la rue vit. C'est-à-dire, c'est le peuple qui vit. Et la classe politique, son rôle, c'est évidemment être le relais des misères de la population. C'est un peu comme au Congo, j'ai dit tout à l'heure. Quand vous avez des universitaires, madame, qui sortent de l'université, qui n'ont comme option que devenir cambiste ou avoir un petit ligablo pour vendre les cartes de crédit. Quand vous avez les parents qui ne savent pas comment envoyer leurs enfants aux études. Quand vous avez des étudiants à qui vous promettez des bourses qui n'arrivent pas à le faire, à les avoir. Quand vous avez les policiers, les soldats, les militaires que vous envoyez en front pour donner leur sang pour le pays et qui n'ont que 70 000 et qui n'ont aucune perspective. Tout cela, madame, c'est ça, le mouvement social. Alors, et ce mouvement social, il appartient naturellement aux hommes politiques de le canaliser, d'abord de l'anticiper et de le canaliser. Nous, dans notre
programme... Je vous redonne la parole, le temps pour moi de prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kananga, au Kasai Occidental.
Maître Adrien Ilobakwe-Ipero à Kananga, au Kasai Occidental. La situation au Burkina Faso n'aura aucun impact dans d'autres pays, à mon humble avis. Car non seulement la donne politique est totalement différente avec les autres pays, mais aussi la réalité burkinabé n'est pas la même dans d'autres pays. Et surtout, la question essentielle et primordiale est celle de savoir si l'opposition et la société civile des autres pays seront en mesure de parler un même langage comme au Burkina Faso.
Honorable Jolino, il y a aussi ce problème. On a vu au Burkina Faso, les opposants parlaient le même langage, tous voulaient le départ de Blaise Compaoré, mais dans certains pays, on estime que l'opposition ne parle pas toujours le même langage. Est-ce que avec ça, ils pourraient faire comme leurs homologues burkinabés?
Madame, je ne connais pas de quel pays vous parlez. Si c'est la RDC, écoutez-moi, je crois savoir que l'opposition parle le même langage. Tout le monde, il n'y a même pas que l'opposition, la société civile, vous avez l'Église catholique, vous avez les membres éminents de la société civile, vous avez la classe politique, vous avez même la communauté internationale qui nous aide par ses conseils, qui nous dit non, il ne faut pas. Parce que la vraie question, madame, ici, c'est vous avez entendu les gens de la majorité, tous, presque dire, avant ils se cachaient. Il disait, c'est un procès d'intention. Nous n'avons aucune intention de modifier la Constitution. Mais évidemment, ils ont sorti leur bout de queue, si j'ose dire, à travers le projet de loi portant révision de la Constitution, qui affecte l'article 197 de la Constitution, qui veut que les députés provinciaux soient élus au suffrage universel direct. Et là, maintenant, ils veulent toucher. C'est-à-dire, en d'autres termes, quand ils touchent à ça, et demain, ils vont demander aussi que les députés nationaux soient élus au suffrage indirect, le président de la République, la même chose. Qui va les en empêcher? Mais surtout, moi, je dis, la politique, elle s'est faite au service du peuple, madame. Je pose la question à M. André Alain Atundou, comme moi, à tous les membres de la majorité présidentielle. Dites-nous, la Constitution, elle est là. On n'est pas à la télé, mais je vous la montre, madame. Qu'on ouvre cette constitution, de l'article 1 à la dernière de ces articles, qu'on nous montre quel est l'article qui empêche M. Kabila de faire ce qu'il doit faire pour les Congolais. C'est-à-dire le social, ou de maintenir la paix. Qu'on nous dise quel est cet article, puisqu'il n'existe pas. Aucun article n'empêche M. Kabila de mettre fin à la guerre
ou plutôt aux humiliations que nous subissons vis-à-vis des ADF Nalou, ni merci. D'augmenter les salaires des peuples, ni de faire des routes, ni... il n'y en a pas. En fait, en réalité, madame, ils veulent tout simplement se perpétuer au pouvoir comme M. Kabila, mais ça ne m'étonne pas puisqu'ils ont des bons conseillers qui ont vécu ça avant.
Merci, Jolino Makelele. Professeur Bob Kabamba va revenir à la situation de la RDC. C'est vrai que il y a ce projet de révision de la Constitution qui est en cours en RDC, même si le président Kabila lui-même ne s'est pas encore exprimé, ce qui crée encore beaucoup de doutes dans la tête de la population ou du peuple congolais avec ce qui s'est passé au Burkina. Au cas où on touchait à la révision de la Constitution en RDC, est-ce que la classe politique ou la population congolaise pourrait réagir comme l'ont fait les Burkinabés?
Merci pour la question. Donc en réponse rapidement, c'est qu'il faut savoir que l'article, la constitution ici, il y a un débat en fait, il y a une confusion. Ça veut dire que si on veut que Kabila se présente aux élections en 2016 en fonction de la constitution de 2006, c'est impossible. C'est impossible même si on parle de pouvoir réviser l'article 220, l'article 220 est irrévisable. Donc toute chose étant égale par ailleurs, le président Kabila ne peut pas se représenter aux élections de 2016 avec cette constitution. Et 220 est irrévisable, de manière claire. Donc il n'y a pas de débat sur cette question-là. Mais je voudrais quand même revenir sur ce que vient de dire l'honorable pour réinsister que, de manière claire, que l'opposition dit que l'opposition congolaise n'était pas en mesure de pouvoir canaliser les revendications de la population et en créer un mouvement qui peut arriver au même résultat qu'au Burkina Faso. Je veux donner encore une preuve de ce que j'avance, c'est qu'il a fallu attendre que la société civile congolaise et l'Église catholique congolaise puisse reprendre la question de la révision constitutionnelle pour que ça revienne de manière claire dans l'agenda politique au niveau de la RDC. L'opposition au début avait fait des déclarations, mais il a fallu que l'Église catholique et la société civile prennent position pour que le débat remonte au niveau de la classe politique. Ce qui illustre très bien que la crise qu'il y a entre la classe politique générale, pas seulement l'opposition, mais aussi la majorité est dans cette situation, vis-à-vis de la population, elle est quand même grave.
En conclusion?
En conclusion, clairement, donc la révision est irrévisable par rapport à 220. Oui, la population congolaise veut un mieux-être, et que le mieux-être que la population congolaise veut, si qu'il puisse y avoir un mouvement politique, il faudrait qu'il y ait une organisation, une canalisation des revendications de la population pour que ça arrive au niveau du débat politique.
Merci, professeur Bob Kabamba. Andrala Tundu, après ce que nous vivons avec le Burkina, la majorité tient toujours à réviser la Constitution?
Le porte-parole du gouvernement a parlé, a évoqué les trois dispositions pour lesquelles le gouvernement a introduit le projet. Voilà. Ceci dit, la
révision... Et donc, on va réviser la Constitution?
On va toucher à ces articles-là, parce que c'est motivé. On a fait ceci, on voudrait ceci pour cela, on voudrait ceci pour cela. La Constitution. Mais alors, pourquoi a-t-on prévu le titre 7? Pourquoi a-t-on prévu le titre 7? Bon, en conclusion, d'abord, il faut éviter la pensée unique. Quelle que soit l'autorité dont on jouit, que ce soit sur le plan intellectuel ou quoi, mais les faits sociaux s'imposent, n'est-ce pas? Et que toute norme sociale a besoin d'avoir, un, le consensus originel, deux, la fonctionnalité. Lorsque un de ces éléments parvient à manquer, il faut absolument y revenir. D'autre part,
rapidement,
je demanderai vraiment à l'honorable Makelele de baisser un peu ses prétentions. Il n'y a pas de stagiaire à la majorité. Je ne me permettrai pas de traiter les gens de l'opposition de stagiaires.
Merci.
Ce sont tous des compatriotes
Merci.
Qui se battent
André.
Pour le bien de ce pays et nous disons non à l'obscurantisme politique à cause de la pensée
Merci,
unique.
André. Merci,
il n'y a
André
pas
Alain,
d'un côté
Joli nom Makelele, conclusion.
Oui, je suis très heureux. Je suis un honnête homme. Je dis merci et bravo au professeur Kabamba pour ce qu'il a conclu, c'est-à-dire l'article 220, comme il l'avait écrit dans une revue intitulée « La consolidation du cadre démocratique en République démocratique du Congo » avec l'appui de la PNUD. Il avait dit que cet article allait frapper d'irrévocabilité absolue. Pour le reste, je répète ce que j'ai dit à M. Atundu et aux gens de la majorité, qu'ils aillent voir le peuple et qu'ils expliquent au peuple congolais quels sont les articles de la Constitution.
Merci.
Qui empêchent M. Kabila de faire ce qu'il veut faire avec le référendum.
Merci, honorable Folino Makelele. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de dialogue entre Congolais. Rediffusion demain 4h15 heure de Kinshasa. Bon suivi de programme sur la fréquence de la fête.